left unturned.
Danscussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'art du mouvement.
Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle.
Tout le monde en parle.
Tous les mardis de live sur choc.ca.
Maudit que je m'endors. Je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim Horton le plus proche.
Fuck le Tim Horton.
Quoi?
Va donc au Salon G à la place au Salon G. Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
Situé au niveau métro du pavillon Aquin, le Salon G, c'est la place pour te sustenter.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Et oui, les médias ont toujours raison. C'est ce qu'on tente de vous démontrer semaine après semaine à La Faute aux médias, en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Bienvenue à l'émission. Donc, ce soir, nous avons beaucoup de monde autour de la table. Nous avons Myriam Bernet, Camila Rodriguez-Sea, Tessie Jean-Paul, Véronique Forêt, ainsi que DJ Charles, qui, semaine après semaine, choisit nos chansons. Bonsoir à toutes!
Salut!
Bonsoir!
Donc, ce soir, on va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, on va se diriger vers Tessie, qui va nous parler de la situation des femmes autochtones et de la police de Val-d'Or. Ensuite, nous allons avoir Véronique, qui va nous parler de modèles alternatifs d'entreprises qui dérangent le système capitaliste. Et finalement, nous allons aller avec notre amie Camila qui va nous parler de la représentation du terrorisme dans les médias et dans le cinéma. Donc, on se dirige tout de suite vers Tessie. Donc, Tessie, tu vas nous parler de cette situation-là qui est très, très dur à traiter.
Effectivement, moi, j'ai décidé de parler de Val-d'Or et les femmes autochtones. Donc, c'est quelque chose qui est venu dans les médias récemment. Donc, juste une petite mise en contexte. L'émission Enquête, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, a fait une émission sur la disparition d'une femme autochtone, Cindy Rupert-House, disparue depuis le printemps 2014. Donc, cette disparition n'a pas fait les manchettes. Donc, situation très courante au sein de la communauté autochtone. Cette émission a fait émerger en fait une problématique sociale soulevée par plusieurs femmes autour de la table lors de cette émission-là. En effet, celle-ci témoignait d'abus de pouvoir orchestrés par les policiers de la Sûreté du Québec de Val-d'Or à leur égard. C'était des accusations à grande échelle, des agressions sexuelles et autres. Donc, la diffusion de cette émission-là l'an dernier est tombée comme une bombe dans l'espace médiatique, puis dans l'espace public. Le poids médiatique de cette émission a fait place à une large enquête suite à l'ampleur de cette affaire. Donc, au début, comme je le répète, c'était une émission qui était sur une personne en particulier, puis par la suite, suite au témoignage de ces femmes-là autour de la table, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème profond, un problème social au niveau de la ville de Val-d'Or.
Oui, il y avait Anguille-sous-Roche.
Exactement. Donc, le gouvernement, suite à l'émission, donc on, ici, déjà, c'est pas une conclusion, mais c'est juste pour faire le lien avec pourquoi on est là. Les médias ont une grosse part de responsabilité dans qu'est-ce qui est arrivé, responsabilité, on pourrait dire positive dans ce cas-là, parce que on a pu, le gouvernement a mandaté le service de police suite à l'émission, le service de police de la ville de Montréal, afin d'enquêter sur ces différentes allégations-là d'agression envers les femmes de la communauté autochtone.
Donc, c'est la faute aux médias du fait qu'on n'en a pas parlé pendant des années de ces problématiques-là très graves, mais c'est aussi leur faute dans le bon sens parce que là, on s'est mis à en parler.
Exactement. Donc, ça a ouvert la discussion, puis c'est justement, ça a ouvert, ça a permis d'ouvrir une enquête. Tout le monde s'est indigné face au témoignage de ces femmes-là. Aujourd'hui, cette faste affaire ressort dans les médias après un an suite à la diffusion du reportage. Il y a eu plus de 37 dossiers qui avaient été transmis à la SPVM et 6 policiers avaient fait l'objet d'une enquête. Aujourd'hui, résultat, aucune accusation n'est portée à l'endroit de ces 6 policiers-là et ni sur aucun autre agent. Donc, l'affaire était quand même assez vaste. C'était plusieurs policiers impliqués, plusieurs femmes autochtones impliquées. Donc, c'était pas un ou deux cas, on s'entend là-dessus, là.
Puis, oui, puis c'est aussi la police qui enquête sur la police.
Exactement. Donc, c'est assez spécial comme situation. Donc, j'ai décidé de me pencher aujourd'hui, l'angle que j'aborde, c'est, je retourne au point qu'on avait parlé il y a 2 semaines avec notre invitée Judith Lucier sur l'enjeu des privilégiés. Cette histoire n'est pas un cas isolé, mais une problématique entrée dans la culture populaire de Val-d'Or, une culture basée sur l'abus des privilèges. C'est vraiment ça qu'on observe. Il est important de constater que l'une des positions sociales qui semble la plus vulnérable au Québec est celle des femmes autochtones. Donc, c'est important de le mentionner dans cette affaire-là, parce que justement, c'est ça que ça implique. Puis leur poids politique, leur poids a pas autant d'impact que d'autres personnes de d'autres communautés sociales. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment la police en arrive là? Comment ça, une communauté complète arrive à faire des déclarations comme ça sur le service de police? Moi, il manque quelque chose. Je remets en question, en fait, la formation de ces hommes, de ces policiers à Val-d'Or et probablement d'ailleurs. La profondeur de cette problématique sociale est telle que le changement doit se faire dans l'éducation de la population québécoise. Et comment utiliser les privilèges lorsque l'occasion se présente? Pour moi, il y a 2 façons de les utiliser, soit que tu en abuses ou soit que tu essaies de partager ton privilège avec les autres. Donc, où le système a failli avec ces gens-là. Puis on s'entend, il y a ce problème-là, mais c'est tellement vaste qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans la formation de ces gens-là. Là. Oui, totalement. Donc, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Ici, bien visiblement, ces policiers ont abusé de leurs privilèges envers les femmes autochtones, de ne pas savoir comment les gérer, comment... Ça entraîne une problématique très très importante, donc de pas savoir qu'on est privilégié ou de pas savoir comment utiliser ce privilège-là, c'est quelque chose qui doit être enseigné. Je comprends pas pourquoi les gens ils ont pas ces connaissances-là.
Et en plus, Tessie, je dirais que non seulement oui dans un contexte policier, mais aussi en général quand on essaie d'expliquer à quelqu'un qu'est-ce que ça peut être les privilèges de race ou même de genre ou d'orientation sexuelle, peu importe, les gens reçoivent ça comme une attaque. Puis les gens se sentent attaqués, c'est comme si on les agressait, puis ils se défendent à ce moment-là de pas être justement raciste ou sexiste. Ils disent ben non, tu sais, moi je suis juste moi, puis je fais mon petit bout de chemin, mais je suis pas en train de grimper sur le dos des minorités. Mais dans le fond, c'est un petit peu ça, mais personne s'en rend compte. Puis c'est pour ça que c'est tellement un problème systémique.
Puis c'est la passivité, puis la non-ouverture, puis le rejet de ces critiques-là,
ouais,
qui est le problème aussi.
Effectivement, pas intérioriser l'enjeu des privilèges dans la société, c'est un problème fulgurant. Moi, qu'est-ce que je trouve aberrant encore plus dans cette histoire-là, c'est que suite à la première diffusion du reportage, il y a plus de 55 policiers qui ont entamé des poursuites contre Radio-Canada pour diffamation. Les femmes autour de la table, Que pensez-vous qui est arrivé dans le sens que c'est totalement, c'est déraillé de faire ça, déjà, de un. C'est totalement impensable. Puis par la suite, il y a même eu, la SQ ne voulait pas la rediffusion de l'émission. Donc, vous avez les mains sales.
Oui, a demandé, je pense, par huissier à Radio-Canada de pas rediffuser l'émission qui a été rediffusée la semaine dernière.
Effectivement.
C'est de l'intimidation, c'est de la menace.
Exactement. Pour moi, c'est grave. C'est pas pour moi, c'est grave qu'est-ce qui vient d'arriver. C'est très grave. Je n'ai pas la même opinion. C'est vraiment grave. Ma conclusion face à ça, puis mon regard face à cette chose-là, c'est vraiment radical un peu. Puis avant ça, je souhaite souligner, dans le reportage, je l'ai écouté 2-3 fois, ça m'a tellement choquée, la porte-parole de la Sûreté du Québec, elle disait, pour la Sûreté du Québec, parce que bon, la journaliste lui demande, est-ce que on croit les femmes autochtones, est-ce que c'est crédible une femme autochtone, puis elle répond, pour la Sûreté du Québec, il n'y a pas de couleur sur aucun dossier. Tu sais, tu nous prends pour qui? C'est totalement... tu sais, c'est comme dire que t'oublies quoi le passé? C'est quoi? Il faut te redonner un cours d'histoire pour savoir que c'est pas tout le monde qui a les mêmes privilèges, puis que en analysant un dossier, il faut que t'assumes qu'il y a des gens qui le sont et qui le sont pas. Je comprends pas pourquoi elle est encore à la tête. Je trouve que c'est dépassé, ça me révolte. C'est totalement hors de contrôle. Puis, enfin, la chose que j'ai réfléchi, c'est que la souveraineté québécoise ne pourra se faire aussi longtemps que la communauté autochtone souffrira de la stigmatisation de la société québécoise. Donc, je suis désolée, mais on ne pourra pas avancer. Oublier la souveraineté, on ne pourra pas. Si on a encore des problèmes de racisme systémique comme ça, des femmes autochtones, des Premières Nations, c'est terminé. Il faut reprendre dès le début. Il faut s'asseoir avec nos communautés, il faut en parler, parce que quand c'est tout un village, toute une ville qui est prise avec ce problème-là, ben ça n'a pas de sens. Puis je reviens sur une citation de Karl Marx qui disait, c'est sûr c'est dans un contexte différent, mais on peut clairement l'appliquer au nôtre aujourd'hui, qui dit « Aux États-Unis, tout mouvement ouvrier indépendant restera paralysé tant que l'esclavage souillait une partie de la République. » L'ouvrier blanc ne sera s'émanciper là où l'ouvrier noir est stigmatisé, mais la mort de l'esclavage fit éclore une nouvelle vie. Donc, c'est ça. Le Québec, nous, on ne pourra pas s'en sortir, on ne pourra pas s'émanciper tant aussi longtemps que la communauté autochtone, les femmes autochtones seront victimes de ce genre d'abus, pas de la population en général, mais de la Sûreté du Québec. C'est au-delà de l'entendement. Donc, aujourd'hui, je lance ça comme appel, puis il faut y réfléchir sérieusement avant d'aller dans un projet référendaire, parce que ça n'a plus de sens.
Ne serait-ce que parce que les personnes qui sont victimes du racisme systémique, eh bien, dans les places au gouvernement, ont le droit de vote. Puis, difficile de faire avaler un projet de société à des gens quand ils se sentent pas inclus dans cette société-là, parce que cette société-là travaille contre eux.
Effectivement.
Bref, on peut pas demander mieux pour nous, aux autres, quand on n'est même pas capable de nous-mêmes, réaliser ces choses-là avec des membres de notre communauté.
Exactement, puis même pas être capable de pallier à nos problèmes, donc... Voici ma réflexion d'aujourd'hui.
Mais merci beaucoup, Tessie. On se quitte maintenant avec la chanson « Wingte Drums » de Youssef Kamal. C'était Wingte Drums de Youssef Kamal sur son album Black Focus. Vous écoutez toujours la photomédia sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Notre deuxième chroniqueuse ce soir, Véronique Forêt, va nous parler de modèles d'entreprises différents qui dérangent le système capitaliste. On parlait de Marx tout à l'heure.
Oui, c'est ça, c'est totalement en lien. C'est peut-être un sujet un peu moins intense, un peu moins émotif par contre. Donc moi, je vais vous parler, en fait, c'est que la semaine dernière, j'ai lu un article super intéressant dans le journal Les Affaires qui parlait d'une entreprise québécoise qui est G-Soft, qui est une entreprise hyper renommé mondialement dans le domaine du numérique. Là, c'est peut-être pour ça que les gens ne les connaissent pas plus, mais cette entreprise-là a décidé d'implanter les vacances illimitées au sein de leur entreprise. Ce que je trouvais une super bonne idée, parce que personnellement, je pense qu'une semaine de 40 heures pour les gens, c'est trop demandé. Il faut aussi prendre en compte le bien-être, la conciliation travail-famille et tout. Dans le fond, le propriétaire de l'entreprise expliquait que pour lui, dans son entreprise, des vacances limitées, ça voulait dire plus de feuilles de temps pour ses employés. Les gens peuvent donc prendre les vacances qu'ils veulent, mais c'est aussi que si un matin, ils se lèvent, ils ont mal à la tête, ils se sentent pas productifs, mais ils sont pas obligés d'aller travailler. Ou s'ils finissent leur tâche plus tôt, si aujourd'hui, j'avais à traiter 3 dossiers, j'ai traité mes 3 dossiers, il est 2 heures, j'ai fini, bye, je m'en vais chez moi. Mais je reste payé 40 heures, théoriquement. Là, dans le fond, j'ai un salaire fixe. Peu importe, ben... J'ai un salaire fixe, peu importe le nombre d'heures travaillées, mais on s'entend que les gens travaillent pas 80 heures semaine. Ce modèle-là lui a été inspiré de Netflix. En fait, Netflix avait mis ça, lui, en place pour contrebalancer le fait que ses employés travaillaient énormément. Lui, il voyait pas exactement dans la même optique, parce que dans son entreprise, les gens travaillent pas 80 heures semaine. C'est pas la même chose que Netflix. J'ai trouvé que c'était un super beau point de vue, puis je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on voit pas plus souvent des modèles d'entreprise comme ça? Parce que ça existe au Québec, ça se fait beaucoup en Suède, ça se fait beaucoup en Scandinavie, mais on n'en parle pas. Puis surtout en Amérique du Nord, on est axé sur la production, la productivité, travailler et tout. Fait que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment 2 discours opposés dans les médias. Soit on met ces mesures-là en place de conciliation travail-famille personnelle, réduction de nombre d'heures travaillées par jour. On fait ça dans l'intérêt du bien-être des individus ou on le fait dans l'option d'exploiter les gens. Tout simplement. Dans le fond, Simon Bain, le propriétaire de l'entreprise québécoise, il disait, puis je vais le citer parce que je pense que c'est super important ce qu'il a dit. Lui, quand il a lancé l'idée, l'impression qu'il y a eu des gens autour de lui, c'est carrément que les gens lui ont dit... C'est juste du marketing pour attirer les candidats. C'est seulement dans les organisations où les gens ne prennent jamais de vacances. C'est une stratégie pour ne pas payer les vacances inutilisées. C'est un système qui encourage les abus. C'est impossible à appliquer dans toutes les industries. C'est inéquitable. C'est une responsabilité qui ne devrait pas être mise sur les épaules des employés. Toutes des commentaires négatifs. Lui, il dit, je comprends totalement leur point, mais est-ce qu'on peut penser que des mesures comme ça sont mises en place, puis c'est pas dans un but démoniaque d'exploiter les gens, puis de faire de la peine à tout le monde, que des fois, c'est des bonnes idées qu'on devrait mettre plus en place. Dans le fond, c'est ça que les gens disaient de Netflix. « Oh, c'est une grosse entreprise, c'est clair que c'est pour exploiter les gens, et les gens vont pas prendre de vacances, ils vont travailler 80 heures semaine, et blablabla. » Mais tu sais, je sais pas Netflix si les gens finalement ils prennent leurs vacances ou non, mais l'optique à la mesure à la base, moi je la trouve vraiment vraiment sensée.
Oui, puis il y a plusieurs expériences du genre qui ont démontré que les employés qui sont un peu plus libres comme ça dans leur travail ont tendance à être beaucoup plus productifs justement dans leur journée.
Oui, exactement. Puis ça on le voit beaucoup en Suède, les journées de travail de 6 heures. Ils se sont rendus compte qu'en 6 heures un employé effectuer autant de travail qu'en 8 heures. Parce que pendant ta journée de 8 heures, là, tu te lèves 4-5 fois pour aller faire pipi, tu vas te chercher 3-4 cafés, tu jases ta fin de semaine avec ton autre collègue. Parce que tu sais que de toute façon, tu peux pas partir d'ici avant 5 heures.
Oui, puis à la fin de ta journée, il reste 25 minutes, t'as pas le temps de traiter un autre dossier complètement.
Tu perds ton temps.
Tu vas faire un peu de ménage, tu vas...
Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, c'est pas productif. Pourquoi est-ce que tu ferais du ménage pour 25 minutes? Rentre chez toi, va profiter de la vie, puis demain, viens reposer au travail, tu sais. Puis c'est ça, puis ce que je trouvais le fun de souligner, puis ça va aller un peu dans l'idée de Karl Marx, c'est que pour moi, l'être humain demeure un être de raison. Puis que si on se permet de remettre en question justement le système puis d'innover, c'est là qu'on va permettre aux gens d'atteindre leur plein potentiel. Fait que je trouve ça vraiment dommage que dans notre société, on fasse la valorisation des gens qui travaillent beaucoup d'heures. Tu sais, je pensais un peu à Steve Jobs. On valorise tellement cet homme-là qui a mis sur pied un empire fabuleux qui nous a amené plein de belles technologies. Mais cet homme-là travaillait des heures impossibles, avait une morale un peu douteuse, puis il avait des relations... pas très saine avec son entourage parce qu'il les voyait jamais. Puis il faut pas oublier que Steve Jobs c'est une exception parce que on parle pas des millions d'autres entrepreneurs qui ont essayé de se lancer en affaires puis qui ont jamais réussi. Donc, moi, je trouvais que les médias ne faisaient que valoriser le travail, le travail, le travail. Tandis que t'as bien beau travailler toute ta vie, ben au bout du temps, quand tu prends ta retraite, faut que tu sois encore capable de vivre des jours heureux et d'avoir
ben
du
même
plaisir.
La fatalité de la vie, c'est que malheureusement, il est décédé d'un cancer.
Oui, c'est ça, exact.
Tu sais...
À quoi ça sert?
À quoi ça sert, c'est ça.
Exactement, puis... Surtout quand les études prouvent qu'on est plus productif, si on travaille moins, tu sais, pourquoi pas? Mais non, c'est toujours irréaliste, c'est toujours des idées utopiques et on n'en parle jamais.
Mais parce que clairement, le modèle dans lequel on vit, c'est pas un modèle qui vise à favoriser l'épanouissement humain, mais sa production, puis en pensant que, bon, plus on met de pression sur quelqu'un, plus il va être productif, puis plus on hausse, disons, les... plus on le met dans une position précaire, plus on va le pousser à travailler fort, puis à se dépasser, puis à vraiment devenir le meilleur qui pourrait être. Puis je suis d'accord avec toi, les médias ont une grande part de responsabilité là-dedans, parce que ce soit, par exemple, dans les médias d'information, mais également dans les séries télévisées ou dans les films, les modèles qu'on a, c'est des modèles de personnes extraordinaires qui travaillent, qui sont des personnes vraiment hors du commun.
Et qui s'accomplissent exclusivement à travers leur travail.
Oui, exactement.
Oui, oui, absolument. Donc, tout ça, je pense qu'au final, ça finit par avoir de l'impact sur les gens. Hein.
Oui, puis moi, je pensais un peu... je sais pas si vous connaissez le hashtag Boss Lady. C'est sur plein de trucs. Hashtag Boss Lady pour comme encourager les femmes à avoir une carrière et tout. Mais il y a autre chose dans la vie là, que d'avoir une carrière. Moi, je veux pas aspirer à travailler 80 heures semaine plus tard. Ce hashtag-là me rejoint tellement pas. Je veux pas devenir ça. Comme je ne veux pas que ma vie se résume au travail.
Bon, ben merci beaucoup, Véronique.
Ça fait plaisir.
Cette semaine, Camilla, tu nous parles de la représentation du terrorisme dans les médias et dans le cinéma.
Oui, mais laissez-moi d'abord faire un petit détour dans ma chronique puis vous parler tout d'abord du film que j'ai vu hier au cinéma. Je pense que vous devinez c'est quoi. Les Animaux Fantastiques, le nouveau spin-off ou préquel, si vous préférez, de Harry Potter. Et si parmi nos auditeurs, il y a malheureusement des gens qui sont pas très à jour avec la série, sachez que le nouveau film a été scénarisé par J.K. Rowling, l'auteur des livres de Harry Potter, et se place 65 ans avant qu'Harry Potter ne commence Poudlard, donc en 1926. Grosso modo, le film raconte l'histoire de Norbert Dragono, magizoologiste britannique qui arrive à New York et qui perd dans la ville certaines des créatures qu'il traîne dans sa valise.
Donc, si je comprends bien, tu nous recommandes le film, Camilla.
Vivement. Vivement. Mais sérieusement, j'ai passé un bon moment à me replonger dans l'univers magique d'Harry Potter. Puis je dois vous dire que au-delà de ça, j'ai vu des belles critiques de la société dans le film. Attention, c'est pas du cinéma d'auteur, mais ça reste très grand public. Mais n'empêche qu'il y avait plusieurs éléments intéressants dans le film. Je vous avertis tout de suite, je vais faire de mon mieux, mais il y a des spoilers dans ma chronique. Donc, avis aux oreilles sensibles. Donc, un des éléments que j'ai apprécié dans le film, c'est la présence des obscuriales. C'est des entités magiques sombres et destructrices qui se forment lorsqu'un jeune sorcier tente de réprimer sa magie et qui, dans le fond, possède le sorcier pour faire ce que les entités destructrices font de mieux. Détruire. Donc,
subtil.
Oui. Loin d'individualiser l'expérience des individus qui, dans leur esprit tourmenté, créeraient des obscuriales, le film prend soin de planter un contexte social dans lequel il y aurait une montée du sentiment anti-sorcier qui mènerait certains jeunes sorciers à refouler leur magie.
OK. Donc, tu fais un parallèle avec le très contemporain sujet du terrorisme en Occident, justement.
Ben oui, ben c'est là que je m'en vais, en fond. Parce que depuis les années 70, il y a une augmentation assez stable du nombre d'attentats terroristes avec une notable accélération qu'on a vue dans les 5 dernières années, selon la base de données sur le terrorisme global de l'Université du Maryland. Puis si on a l'impression qu'il y a plus d'attentats, en fait, depuis le 11 septembre 2001, donc... pas depuis les 5 dernières années, mais depuis, disons, les 15 dernières années, ben c'est faux. Et c'est probablement la faute aux médias qui sensationnalisent la chose, parce qu'en fait, c'est vraiment depuis 2010 qu'il y a beaucoup plus de terrorisme.
Justement, Comment est-ce que les créateurs de la base de données définissent ce terrorisme-là?
Oui, parce que, bon, vous m'avez déjà vu faire d'autres chroniques, là. Vous savez peut-être ce que je pense du terrorisme ou de la violence utilisée par l'État, mais dans l'étude, le terrorisme est utilisé comme l'utilisation de violence ou la menace d'utilisation de la violence par un acteur non étatique pour atteindre un objectif politique, économique, religieux ou social grâce à la peur, la coercition ou l'intimidation. Donc, le sens donné est plus vaste que celui qu'on s'est habitué à entendre dans les médias par lesquels on a récemment associé le terrorisme à intégrisme musulman, alors qu'en fait, par exemple, la tuerie de la Polytechnique en 1989 est également un attentat terroriste, oui. Puisque l'individu en question avait une idéologie clairement anti-féministe. Donc, par la violence, cherché à atteindre des objectifs politiques. Les médias ont, à mon sens, une part de responsabilité dans la trompeuse et, disons-le franchement, raciste association entre le terrorisme et l'islam, puisqu'en étant dans la majorité des cas, le premier contact que les gens ont avec un événement ou une tragédie, les médias contribuent à cadrer l'événement puis à mettre en place l'idée qu'on se fait du sujet. Pour la comparaison, il y a eu, selon la base de données dont je vous parlais tout à l'heure au Canada, 76 attaques et 343 morts entre 1970 et 2015. On parle des attaques terroristes. Pendant la même période de temps, il y a eu 2693 attaques aux États-Unis qui ont fait, quant à elles, 814 morts. Donc, 343 au Canada et 814 morts aux États-Unis. Le nombre d'attaques terroristes est très similaire en France, mais elles sont, quant à elles, moitié moins meurtrières.
Et donc, si on revient au film, ce que tu nous dis, dans le fond, c'est que ces forces-là, sombres et maléfiques, les ombralis, créées par cette exclusion sociale-là, qui sont en fait créées par cette exclusion sociale, sont en fait les terroristes.
Oui, exactement, parce que dans le fond, la majorité des terroristes en Occident naissent dans les pays qu'ils attaquent. Donc, on est témoin de personnes qui se retournent contre leur société. Donc, clairement, il y a des graves problèmes de cohésion sociale là, dans ces sociétés-là. Moi, je pars de la prémisse plus la cohésion sociale est mauvaise dans une société, plus il va y avoir de terrorisme, plus il y a de racisme, dans le fond, plus il va y avoir de terrorisme. Ce qui fait qu'en fait, un individu va se retourner contre ses propres concitoyens. Puis, cette représentation-là du terrorisme, c'est... Puis là, franchement, c'est seulement une impression que j'ai, mais elle semble de plus en plus présente dans les médias. Puis l'image qu'on lance du terroriste influence grandement l'imaginaire collectif. Puis c'est ce que j'ai aimé dans le traitement des animaux fantastiques, c'est que le terroriste était pas arabe pour une fois. Puis je pense que en montrant un enfant comme ça avec qui on peut tous s'identifier, c'est facile de comprendre que dans le fond, c'est le climat social qui crée le terrorisme. En fait, c'est notre société qui crée les cancers qui se retournent contre nous, si vous voulez. Dans le fond, les attaques terroristes seraient seulement, le symptôme de ce manque de santé sociale.
Ça porte à réflexion. Merci beaucoup, Camilla.
Ça fait plaisir.
Donc, je vous le rappelle, vous écoutez La Photomédia sur les ondes de choc.ca. C'est tout le temps dont on disposait. Vous étiez en compagnie d'Émilien Roscanou, votre animateur, ainsi que Myriam Bernet, Camilla Rodriguez-Ca, Tessie Jean-Paul, Véronique Forêt, ainsi que DJ Charles Lemieux. On se quitte en chanson avec Bored de The Posters sur leur album Bored in Canada.
It was absolutely impossible to keep atomic energy a secret. In former ages, that might have been managed, because there were many secrets once upon a time. And people were not admitted to these secrets unless they were in some way tested and found capable of handling them without running amok.
I knew that I had it, I already feel the enemy. I knew that I had a train. Before I had a train, I already seen the enemy. Money making nigga, triple Eminem. Used to listen to the Eminem. Used to have no money, not even for Eminem. Waiting on the checks in the mail. I'm waiting on the checks in the mail. I throw away all the bills and the pills.
wake up way early, get to work. It's the emails I'm sending out, talking better now. This shit they can't fuck with. This shit they can't fuck with.